précisément ces récits du commencement de l'histoire de Joseph dans la Bible hébraïque, dans le Pentateuque. Nous le lisons précisément au moment de Hanouka, et vous savez à quel point, nous en avons eu que des bribes, à quel point le Midrash relie tout le thème du Chor. Vous vous rappelez l'importance de ces... Je ne traduis pas parce que ça nous mènerait trop loin, précisément à l'identification de Joseph. Or, voici ce qui se passe. C'est que Matthieu, comme par hasard, mais c'est vraiment une coïncidence purement formelle, en hébreu c'est Matatiaou, mais rien à voir. Alors donc, dans l'évangile selon Matthieu, c'était un juif qui s'appelait Matatiaou, et finalement il s'est appelé Matthieu en se christianisant, romanisant, je pense. Alors nous donne, je lis, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Et vous avez là trois paragraphes qui vont être récapitulés par le verset 17 du premier chapitre de Matthieu. Le total des générations est donc d'Abraham à David, 14 générations, de David à la déportation de Babylone, 14 générations, de la déportation de Babylone au Christ, 14 générations. Trois paragraphes de 14 générations depuis Abraham jusqu'au temps du récit du mythe fondateur de la conscience chrétienne. Cette division du temps en 14 générations est d'origine midrashique. Et je le dis très rapidement pour ceux qui ne le savent pas, je devrais dire rapidement pour ceux qui le savent, parce que c'est trop rapide, c'est que le temps d'Israël, à travers l'histoire, est compté suivant les phases de la lune, et que le 14e jour, c'est la pleine lune. Et alors nous avons donc ce rythme des époques en 14 générations, et donc la racine de ce verset dans Matthieu est du Midrash juif. Et alors nous avons premier groupe de 14 générations qui va de Abraham à David. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. J'ouvre une toute petite parenthèse. Il est bien évident que l'expression biblique qu'on attendrait, c'est Joseph et ses frères. Okay? Et puis, voilà qu'il y a l'expression Judas et ses frères. Déjà là, il y a une clé sur les serrures. On va nous indiquer de quoi on veut parler, ce qu'on veut raconter. Mais je dois vous dire, pour être un peu plus complet, que dans la Gemara, dans le Talmud et dans le Midrash, l'expression Judas et ses frères existe, et pour définir le judaïsme d'ailleurs, c'est Yehuda ve Ehav. Mais plus exactement, vous avez Yehuda ve Od. Yehuda ve Od, et il y a aussi Yehuda ve Ephesod. Ça veut dire que l'essentiel de la lignée juive héritière des Hébreux, c'est Judas et ses frères. Bon, et c'est ce qui est désigné en filigrane déjà là. Jusque-là, ça va très bien. Un des descendants de Judas, c'est Pérez, fils de Tamar. Pérez, il y a Phares dans le texte, mais je vous le lis en hébreu et en français en même temps. Phares, Pérez, engendre Esrom, Esrom, Aram, Vechenala. On arrive, en fin de compte, à Ishaï, Jessé, engendre le roi David. David engendra Salomon. Ça commence le deuxième groupe des 14 générations. Jusque-là, ça va très bien. Et je voulais mettre en évidence Judas et ses frères. Deuxième groupe de 14 générations, et ça va jusqu'à la déportation de Babylone. Et alors là, on commence à Salomon, par Roboam, on arrive à Zorobabel. Ensuite, troisième groupe de 14 générations. Et là, à un certain moment, nous avons la généalogie suivante. Alors suivez bien, parce que c'est là, en quelques phrases, que je vais essayer de situer mon problème. Éléazar, un certain Éléazar, engendre un certain Matan. Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle naquit Jésus, que l'on appelle Christ. Alors c'est là que s'installent les données du mythe. Comment ? En ce sens que nous avons déjà cette histoire de l'opposition entre Joseph et Judas dans le récit des Hébreux. Dans le récit, non pas mythe fondateur d'une identité de croyance, mais dans le récit de l'histoire d'un peuple que nous sommes. Nous sommes Joseph d'un côté ou Judas de l'autre. Nous ne sommes pas, si vous voulez, en situation de mythe qui consiste à croire en la valeur Joseph ou à croire en la valeur Judas, quitte à la diviniser. Nous sommes les Hébreux. Nous sommes en état civil. et militaire. Nous sommes Joseph, nous sommes Judas. Or, vous voyez les deux registres. Et il y a dans le récit de la famille des Hébreux antagonisme entre Joseph d'un côté et Judas et ses frères de l'autre. Or, on va nous raconter un récit d'antagonisme entre, je reprends la phrase, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle naquit Jésus, que l'on appelle Christ, qui est fils de David d'une certaine manière, fils de Joseph d'une autre manière, en tout cas fils pour l'état civil, puisqu'il s'agit du père terrestre, du père nourricier. Mais en réalité, pour la conscience chrétienne, Dieu lui-même. Dieu, en tant que Dieu le Fils, est engendré par l'Esprit Saint, et pas du tout par un père et une mère, évidemment. Alors, vous voyez, c'est là qu'on va basculer. Mais les données sont les mêmes, reprises en langage mythique du Mikra, du texte hébreu. Et ce qui va nous frapper tout de suite, c'est que nous avons de nouveau en place une identité fils de Joseph et une identité Judas, qui est l'antagoniste. Celui-là, on va lui mettre un S, et c'est Judas Iscariote. Okay? Mais il s'appelle Judas. Et alors, dans ces livres-là, il n'y a pas de hasard. Okay? Alors, je vais donc vous parler d'emblée comme d'un récit mythique. Mais encore une fois, ce n'est pas le mythe de n'importe quoi. C'est le mythe de l'identité d'Israël à la manière Joseph, qu'on va opposer à l'histoire des Juifs qui, eux, sont la fidélité Judas. Et on va donc désigner Judas comme le traître de la tentative Joseph. Bon, je pourrais passer des heures à vous décoder ce texte. Je parle des évangiles. Mais ici, c'est tellement bolette, je ne sais pas comment dire, c'est tellement manifeste que c'est l'intention du rédacteur. Vous comprenez, je veux dire, c'est que, vous savez qu'il y a des textes, surtout dans les écrits de Paul, qui donnent rendez-vous aux chrétiens à la fin des temps, en leur disant, vous verrez qu'à la fin des temps, ça se dévoilera. Qui est qui, n'est-ce pas ? Et bien, peut-être que nous sommes déjà un peu proches de la fin de ces temps-là. Mais je dis ceci pour essayer d'expliquer quelque chose qui m'a beaucoup frappé dans nos controverses qui n'ont pas eu lieu. C'est le fait que très souvent, les chrétiens disaient qu'entre la Torah et les Juifs, il y avait un voile. Et qu'il fallait que les chrétiens expliquent la Torah aux Juifs. Je crois que le temps est arrivé d'inverser la méthode. Et que si nous voulons nous commencer à nous comprendre, il faut donc que premièrement les Juifs expliquent les évangiles aux chrétiens. Et ceci encore une fois, au bénéfice de cette catégorie, que ce n'est pas la même religion, que ce n'est pas la même identité, que ce n'est pas le même monde, que très modestement, fraternellement je veux dire, que les Juifs expliquent aux chrétiens ce en quoi ils croient, et que la dignité de leur croyance peut rester intacte, à condition que l'apparence mythique, et c'est plus qu'une apparence, soit enlevée. Or, je voudrais que vous compreniez bien que dialoguer au niveau des opinions n'a aucun sens. Parce que je ne vous donne pas une opinion, je vous lis un livre, et qui est comme par hasard celui de Matthieu. Je vous désigne la réalité au niveau d'une lecture. Ne dites pas, c'est ce que vous pensez, nous pensons autrement. Peut-être même, ce n'est pas nécessaire de dialoguer, mais de réfléchir. Que, voilà, il y a d'un côté une réalité historique, le peuple des Hébreux et son histoire, comme elle est formulée dans la Bible, l'Ancien Testament pour les chrétiens, par la révélation prophétique. De l'autre part, il y a un récit fondateur d'un fait de croyance, et non pas d'un fait d'identité, ou d'existence. Bien sûr, il y a une histoire des croyances, mais les Hébreux ne font pas partie de l'histoire des croyances, ils font partie de l'histoire des hommes. Bien sûr, il y a l'histoire des hommes chrétiens, mais les chrétiens ne sont s'identifiant tels dans le phénomène de croyance, et non pas, premièrement, dans le phénomène d'existence. On a fait un peu allusion à cela ce matin sur une toute autre étude. Lorsque un fils se rebelle, il reste fils. Mais lorsqu'un serviteur ne sert plus, il n'est plus serviteur. Vous voyez la différence. C'est-à-dire, lorsqu'un chrétien ne croit plus dans le récit de la Passion, il n'est plus chrétien. Il est ce qu'il a toujours été, judéo-français, mais perdant son appendice juif. Il est donc devenu français, anglais, allemand, redevenu français, anglais, allemand, russe, etc. Et avec ces nations-là, nous, Israël, nous avons une relation à avoir. Et elle est historique. Mais L'identité juive, à ce niveau-là, n'est pas d'abord une identité de croyance. C'est une existence historique. Nous ne sommes pas des personnages de romans juifs, et la Bible n'est pas un roman juif. Vous voyez ce que je veux dire? Nous ne sommes pas des silhouettes sur des vitraux de cathédrale. Et nous ne sommes pas des personnages de romans. Et je crois que le monde chrétien contemporain, découvrant que les Juifs sont une existence, un peuple, une société, une histoire, et pas des personnages de romans pieux, eh bien, font une découverte. Et je crois qu'il est nécessaire que nous nous découvrions à la hauteur authentique. Voilà ce que je voudrais ajouter de mon point de vue. Et c'est le résultat d'une conviction pragmatique de longues années d'expérience de ce problème. C'est que je crois que le chrétien peut garder en toute dignité l'authenticité de sa croyance à condition de l'épurer de la lecture mythique de ce rite de la Passion. Et vous aurez d'ailleurs la parole tout à l'heure. Or, je reviens donc à l'équation Joseph-Judas. De telle sorte que nous comprenions ce que le rédacteur de ce texte que je vous lis a voulu non seulement dire, mais faire. Et j'entends la première communauté des judéo-chrétiens. Eh bien, relisez l'histoire de Joseph. C'est le fils de Jacob allant à l'extérieur, dans la civilisation extérieure, pour hébraïser, sanctifier la civilisation extérieure. Et puis, il se met donc au service de l'Égypte. Et puis, il y a là une première dimension de la messianité hébraïque, à la manière Joseph, qui occulte son identité hébraïque tout en s'en réclamant nominalement, mais qui, si j'ose dire, s'égyptianise, se déguise en égyptien pour, au service de la civilisation égyptienne comme telle, la transfigurer et sauver le monde du salut des Hébreux, mais à travers l'Égypte. Et c'est une vocation messianique bien précise. La réponse de Judas, de l'autre côté, c'est le refus de cette tentative, parce qu'on a déjà eu l'expérience avec Jacob chez Laban, et nous connaissons l'histoire de la fin d'une telle tentative, et ça s'est d'ailleurs passé en Égypte comme ça, la persécution, la tentative d'annulation de l'identité hébraïque, exactement ce que les Hébreux en Égypte vont connaître, et Moïse va réhébraïser Joseph en lui enlevant son apparence égyptienne, et Joseph, je dis bien, et en le rendant aux Hébreux et en le ramenant avec Judas en Israël. Je ne veux pas du tout faire d'analogie dans le temps contemporain, mais là, je pourrais le faire, mais je ne veux pas l'aborder. Mais il est bien évident que le bilan des frères de Joseph à peine nés à la fin de l'exil de Jacob chez Laban, il est enfant, il vient de naître. C'est au moment où il est né que Jacob a dit à Laban, ma tâche est finie, je rentre dans le pays, au pays. Vous voulez les références, je peux vous les donner. Chalechenina, El Mekomi Velarti, au moment de la naissance de Joseph. Et puis, ils reviennent de l'exil de chez Laban avec un bilan négatif, c'est un échec. On a fait tout ce qu'on a pu pour transfigurer la civilisation de Laban. Résultat, c'était anti-sémitisme, il faudrait dire, c'est un peu anachronique, mais anti-jacobisme, si vous voulez. Et puis, c'est dit en clair comment le premier thème fondateur de l'antisémitisme se passe dans les paroles de Laban à Jacob. Et alors, il faut s'enfuir sous peine de disparaître. Et puis, voilà, Judas et ses frères sont pleins de cette expérience. Et ils vont donc, a priori, refuser la tentative Joseph. D'où le procès. Yeah. Bon. Alors, nous nous trouvons maintenant bien longtemps après. Et bien longtemps après, Rome, après la Grèce, occupe la Judée. L'avenir historique, politique est bouché. Et puis la grande civilisation qui commence, c'est la civilisation romaine. Et alors nous voyons ici, donc encore une fois, le récit du mythe fondateur. Israël, l'identité Israël, va être investie comme messianique à la manière de Joseph. Et on va nous raconter l'histoire d'une première communauté légendaire. Ça ne veut pas dire que ces hommes n'aient pas existé, mais je veux dire que le phénomène de croyance et de conscience porte sur l'apparence mythique de ce problème. Et puis, on va nous raconter 12 apôtres, puisque Jacob avait eu 12 fils. Et vous voyez bien qu'on avait besoin d'un certain Jacob qui engendre un certain Joseph pour faire naître le mythe du fils de Joseph. Et puis, on lui donne comme antagoniste un certain Judas. Ce n'est pas les Juifs qui ont inventé ce texte. Je veux dire, c'est bien les Juifs qui ont inventé ce texte. Mais c'était les judéo-chrétiens. Et là, encore une fois, je me borne à vous lire. Je vous interprète pas, mais je vous lis en hébreu. C'est-à-dire, je vous parle en français, mais j'espère que vous entendez en hébreu. Et c'est ça qui se passe. Et alors, là, on commence à comprendre. Mais encore une fois, les rédacteurs de ces mythes du Sauveur en ce temps-là n'avaient pas du tout conscience ni intention de faire un faux. En leur temps, comprenez ce qui était dit dans les sagas des mythes, si vous voulez. C'est plus tard, beaucoup plus tard, que ça s'est mythifié dans le sens paganisé. Or, cette relation du monde romain et de toutes ses dimensions à cette identité salvatrice ainsi perçue est tellement profonde pour la conscience chrétienne et tellement importante que, bien sûr, il s'agit d'une relation à une réalité de foi. Mais il suffit de dire les choses comme ça. Par rapport à ce récit, la réalité de foi, pour l'homme du Midrash, apparaît comme mythique. Bien entendu, l'homme du Midrash peut restituer la lecture midrashique du mythe, mais à condition qu'il soit bien clair. Nous sommes au bout de 2000 ans de non-dialogue, les uns et les autres, majeurs, vaccinés et adultes, et que ce soit d'adulte à d'adulte que ce dialogue soit commencé. Et si j'étais, si vous voulez, purement historien, universitaire, philosophe, structuraliste ou pas, peu importe, alors je ne saurais pas parler aux chrétiens à partir de ce moment-là. Mais d'autre part, comme juif, je fais partie de la foi juive. Et c'est pourquoi je peux dire, je ne suis pas seulement, si vous voulez, juif d'existence, je suis aussi juif de foi, enfin j'essaye. Et alors, c'est pourquoi je peux dire que je sais que, et là, c'est une toute autre perspective d'étude, bien entendu, que le chrétien peut garder intact le contenu de sa foi et pouvoir avoir face à face un dialogue honnête avec les juifs et pouvoir espérer une théologie positive du judaïsme, alors que jusqu'à présent, il n'y a qu'une théologie négative du judaïsme dans l'Église. Et voilà ce qui arrive de l'homme du refus. Vous comprenez ce que je veux dire? Et du déicide, etc. Eh bien, dans la mesure où c'est à ce niveau-là qu'on accepterait avec courage, d'un côté d'expliquer le Midrash, et de l'autre de renoncer au mythe. Et à ce moment-là, le dialogue serait possible d'adulte à adulte. Parce qu'en vérité, ce en quoi a cru le chrétien jusqu'à présent, c'est que c'est l'identité d'Israël qui est salvatrice. Et c'est pourquoi c'est cette histoire qu'il raconte. Et qu'elle est salvatrice dans la dimension Joseph. Et on lui demande de se suicider, si j'ose dire, dans sa dimension Judas, pour le salut du monde. Mais Judas ne veut pas. Parce qu'il sait que cette aventure Joseph ne peut être que provisoire. Et qu'en tout cas, le Joseph hébreu de la Bible, du récit des Hébreux, nous a prévenus. Et lorsque le Dieu d'Israël vous ramenez mes ossements. Le Midrash dit, de telle sorte qu'ils ne servent pas de divinité aux païens. Vous voyez jusqu'où ça va dans le Midrash, n'est-ce pas? Bien. Alors, en tout cas, voilà, au fond, j'ai beaucoup trop parlé. Vous avez la parole. Je résume simplement la thèse que j'ai eu la prétention de vous exposer. Nous sommes encore confrontés, et je remercie Drahi de m'avoir rappelé l'incidence des idéologies, c'est un autre chapitre, mais c'est le même problème. Nous sommes encore confrontés de la résurgence de la mentalité mythique après la cèse philosophique. Et j'ai essayé de vous donner un exemple. Nous y sommes confrontés avec les idéologies, et vous savez à quel point les idéologies sont dévastatrices, encore une fois. Et parce qu'il y a absolument l'irrationalité de la foi qui apparaît dans l'idéologie sous l'apparence de la raison. Parce que la motivation affective profonde, elle est de l'ordre du mythe. Et puis, vous avez remarqué que dans tous ces mythes des idéologies contemporaines, le diable, c'est toujours le juif. Vous avez remarqué cela, je suppose. Eh bien, en tout cas, pour revenir à notre analyse, je crois qu'il y a là une direction assez féconde. et ce que je vous invite d'ailleurs d'approfondir pour vous-même, c'est que il faudrait donner aux mythes qui sont découverts aujourd'hui, explorés aujourd'hui, eh bien, la lecture midrashique pour leur restituer leur fond de sagesse, et puis, d'autre part, démythifier les approches du midrash qui ont donné tellement d'idolâtrie d'origine biblique. Et sur le point suivant, c'est que le mythe accumule sur une personne légendaire qu'elle rend mythique les caractères d'une identité collective, alors que le midrash rend à l'identité collective les caractères de l'être d'exception que l'histoire a connu. Et la seule, si vous voulez, la seule tradition, j'ajouterais mystique, mais la seule tradition tout court qui s'est gardée de l'adoration des images à ce niveau-là, c'est bien la tradition d'Israël. Vous me permettrez de raconter de nouveau ces midrashs que j'ai inventés et avec lesquels j'avais clos ma communication à Cordoue. Madame Corbin s'en souvient sûrement, et d'ailleurs ça avait laissé un silence un peu gêné dans la salle. Et c'est ceci: quand Dieu a créé le premier homme, il lui a dit, si tu es sage, tu auras une image, à l'image de Dieu. Et quand Israël est arrivé au Sinaï, il lui a dit, tu seras sage et tu n'auras pas d'image.
Bien, donc nous allons continuer donc cette séance avec les questions. Oui, s'il vous plaît.
Pour avoir un vrai dialogue entre judéo-chrétien, judéo-chrétien, il faut que les chrétiens renoncent à l'aspect mythique de leur croyance. Il n'y a pas les juifs à se renoncer. Il ne peut pas y avoir un vrai dialogue s'il n'y a pas égalité de droit au de corps.
Dans quelle loi c'est écrit ça? Non, les juifs doivent renoncer, je l'ai dit, à garder pour eux le secret du Midrash. Mais pourquoi ils ne peuvent pas y renoncer? Parce que la plupart des juifs ne le possèdent pas, c'est tout. Non, je crois que le balancement, je l'ai donné. C'est-à-dire que les juifs doivent peut-être aider les chrétiens à aborder la lecture midrashique des évangiles, alors que, bien entendu, le préalable, il y a d'autres préalables. Bon, le préalable, vous l'avez entendu, il y en a d'autres. Regardez les coïncidences de l'histoire. Hier soir, en lisant Le Monde, j'ai vu dans les annonces de conférences que demain soir, je ne sais vraiment pas où, mais dans une assemblée de l'amitié judéo-chrétienne, le père Ruby va faire une conférence sur les évangiles et le midrash. Regardez, il y a un chef d'orchestre là-haut, c'est pas possible. Mais si je l'avais su à temps, je l'aurais vraiment invité aujourd'hui. Mais j'aurais bien voulu qu'il en... Est-ce que c'est enregistré tout cela? Bon, j'aurais bien voulu qu'il l'entende et qu'il comprenne l'atmosphère dans laquelle j'ai voulu poser le problème. Sachez, d'un côté comme de l'autre, que nous avons été pendant des millénaires irréductibles à ce niveau, et nous continuerons à être irréductibles. Et nous verrons. Il n'y a pas une sicouille, il n'y a pas de chance que ça change, il n'y a pas de risque que ça change. Par conséquent, n'ayons pas d'illusions. Autant, je vous rappelle, amitié entre hommes et femmes, juifs et chrétiens, c'est plus que souhaitable, autant la formulation d'une idée judéo-chrétienne, c'est de même posture, lorsqu'on va voir au fond des choses. Maintenant, ceci dit, il y a d'autres préalables. Je vous ai dit d'abord, c'est une affaire de spécialistes, parce qu'on ne peut pas poser un tel problème sur des bribes, sur des têtes d'épingle. Et puis, d'autre part, il y a une question d'élaboration de véhicules linguistiques. Il faut qu'il s'agisse de théologiens qui puissent maîtriser au minimum ensemble au moins 4 langues, puisqu'il y a plus une langue de communication, une cinquième d'ailleurs qui est l'arabe, et qui serait l'araméen, l'hébreu, le grec et le latin. Hors de quoi, on ne sait pas de quoi on parle. Et par conséquent, il est bien évident que c'est une affaire de spécialiste. Bien, vous aviez la parole.
C'est une question plutôt de suggestion de quelques détails. Est-ce que vous pouvez revenir un peu plus en détail sur la définition du midrash par rapport au livre et à cette idée que vous avez nommée comme étant surtout de société, d'un personnage. En quoi, en plus en détail, si vous pouvez.
Écoutez, non, entrer dans les détails, nous n'avons pas le temps, malheureusement. Entrer dans les détails, il faudrait le faire sérieusement. J'ai simplement voulu donner une direction de méthode en ceci. En prenant l'exemple de Moïse en particulier. Regardez jusqu'où cela peut aller. Le jour de Pessah, le soir de Pessah, où il y a le céder de la Pâque juive, où nous racontons l'histoire de la sortie d'Égypte, le nom de Moïse n'est pas prononcé une seule fois. Pour ne pas, et ça frise l'ingratitude à la limite, si vous voulez, mais pour ne pas risquer en aucune manière d'attribuer sous forme divinisée quelconque ses mérites à Moïse. Et vous allez me permettre d'ajouter un autre midrash sur Moïse. Le problème est le suivant. Moïse est vraiment un héros de l'histoire, à qui Dieu a donné plus qu'à tous les hommes du Tselem Eloki. Oui, mais il faut que nous nous relions à lui comme s'il n'est qu'un homme parmi les autres. Pourquoi ? Parce que tout ce qui lui a été donné concerne Israël. Et c'est pourquoi le Midrash, dans la lecture de l'identité de Moïse, va nous dire ce caractère exceptionnel de Moïse, mais c'est ce qui appartient à Israël, le peuple. Voilà, si vous voulez, la thèse de la spiritualité juive, c'est que nous n'avons pas de culte des héros. Mais ça va très loin, parce que les héros, nous les avons. Alors, quand on comprend ces deux choses à la fois, les héros, nous les avons, et ils sont beaucoup plus qu'on pourrait le croire. Mais nous n'avons pas de culte des héros. C'est cela, parce que le culte des héros, c'est ça la pente mythologique et idéologique qui mène au mythe. Et c'est très important de comprendre ça. Voilà un exemple du Midrash dans Vezot Abracha, à propos de l'expression qui définit Moïse souvent dans le texte, mais surtout dans la paracha de Zot Abracha, la fin du livre du Deutéronome. Ish ha-Elokim, homme de Dieu. Ish ha-Elokim. Abraham était appelé prince de Dieu, Nessi Elokim. Mais Moïse est appelé Ish ha-Elokim. Voilà comment le Midrash hébreu entend cela. Alors je vais vous étonner. Et nous sommes au temps du Midrash. Alors le Midrash dit, qu'est-ce que ça veut dire homme de Dieu? Ça veut dire Chetio ul-Ma'la Elohim, Chetio ulmata Adam. Je traduis, et ça fait très chrétien, apparemment. Okay? Lecture mythique du Midrash. Ça veut dire, Chetio, sa moitié supérieure, Dieu, sa moitié inférieure, homme. Voilà ce que le Midrash dit de Moïse. Vous avez entendu un juif croire à ça pour Moïse, n'est-ce pas ? Et vous comprenez, tandis que, entendu par un grec, eh bien, c'est tout de suite. Je précise pas plus, c'est tout de suite l'homme-dieu, le dieu fait homme, etc., suivant les nuances des théologies, mais par rapport à la conscience juive, ça va au même. Et, simplement, je crois que derrière, les perceptions à travers l'intellect à proprement parler, de ceci nous avons parlé un peu sur un autre sujet ce matin. Je ne crois pas qu'un grec ou un juif, un chrétien ou un juif raisonne d'une manière différente. Mais il y a un fait de conscience qui est différent. D'un côté, il y a l'hébreu. Et donc, il faut que le grec s'hébraïse pour que son christianisme devienne authentique. Parce que nous comprenons ce à quoi les nations ont cru lorsqu'ils ont rencontré l'histoire juive. Et l'histoire juive aux prises avec les hommes de la violence, c'est-à-dire les hommes des empires, les hommes de Rome. Ils ont cru tout simplement à ce que Judas Lévi enseigne. Judas Lévi dit ceci, Dieu a créé le monde. Et dans le monde, il a créé les hommes. Et puis voilà qu'il a transmis aux hommes ce que Judas Lévi appelle le Inyan Eloki, le fait d'être divin. Et puis, Judas Lévi explique l'histoire des généalogies de la Bible jusqu'à la sortie d'Égypte en nous montrant que ce Inyana Eloki, le vocabulaire biblique c'est le Tselem Elokim, que je ne traduis pas, c'est un autre sujet, mais pour ceux qui entendent, le Inyana Eloki, le sujet, le propos divin, le projet de Dieu, le projet divin, le fait de devenir ce que Dieu a voulu pour sa créature, est en fin de compte passé de lignée en lignée dans l'identité Israël. Et donc Israël, mais comme peuple, est dépositaire du Inyan Eloki. En quoi croit le fait de conscience chrétienne en changement de vocabulaire ? C'est qu'il y a un homme qui est Dieu. et qui, oui, on est passé du vocabulaire hébraïque au vocabulaire mythique. Ils croient dans la même chose, mais la forme de la croyance est radicalement différente. Et c'est pourquoi un des grands sujets de souci et de préoccupation de la conscience chrétienne, c'est quoi faire du peuple juif après le Christ. C'est pourquoi il y a ce souci dans la conscience chrétienne. Quoi faire du peuple juif? Il y en a un des deux de trop, n'est-ce pas? Vous comprenez le problème. Et le problème, une minute, et le problème n'est pas résolu. Mais je voudrais revenir, en tout cas pour ceux qui entendent déjà, parce qu'il y a, certainement proximité plus ou moins grande, ou éloignement plus ou moins grande, vu la nature du problème. Il y a inévitablement des écrans affectifs, et, parce qu'on parle de problème de foi. C'est inévitable. Mais je voudrais le faire vraiment de la façon la plus courtoise. Je pense que vous avez compris les implications de cette thèse, qui finalement, ma foi, n'a rien d'original, parce qu'il s'agit de lire ce qu'il y a d'écrit. C'est ceci, c'est que la conscience chrétienne croit dans l'identité d'Israël comme la Bible en a parlé. Seulement, elle en a fait une figure mythique adorée pour elle-même qui se substitue à l'histoire de la société juive. Voilà le fond du problème. Bien, maintenant vous avez la parole.
Pour compléter ma question,
oui.
Des choses qui sont par définition intouchables ou séparables parce que c'est l'union entre un mortel et une figure mythique et divine, et par l'autre côté, une sorte d'appropriation par éducation des exemples, de caractéristiques exemplaires qui sont à la manière ou à la portée de chaque homme comme des catégories d'esprit, comme des catégories morales et qu'essayons de.
Et en d'autres termes, j'accepte assez, en d'autres termes, vous voulez me dire si vous êtes juive ou chrétienne?
Je suis
israélienne. Bon. Et en d'autres termes, ça c'est joli. Ça n'empêcherait. Et en d'autres termes, si vous voulez, je veux dire que la différence, c'est que d'un côté, il y a un phénomène de conscience qui mène donc à une stratégie de communion, alors que de l'autre côté, du côté juif, il y a un phénomène d'existence. Prenons par exemple la catégorie messianique. Je dirais à la limite que le chrétien croit au Messie. Le peuple juif est le Messie. D'un côté, il y a une existence, de l'autre côté, il y a une communion de croyances. Vous voyez quelle est la différence? Je pense que c'était dans le sens de votre question. Bien, mademoiselle. Madame, pardon.
Si on pouvait imaginer que l'Église, en tant que l'Église, la séparité en tant que l'Église, quand il y a l'identité d'Église chrétienne par rapport à Israël, qu'est-ce qu'il faut dire?
Il serait une diaspora d'Israël. Ouais.
Mais vous voyez vraiment que la
non.
Madame,
moi je voudrais poser une question plutôt de date. J'avais raconté l'histoire de Sarah qui a eu un enfant très âgé, et vous avez dit aussi que la mère de Moïse, la même chose, était le Midrash qui raconte ça. Alors je voudrais savoir si ce Midrash a été écrit avant la naissance du christianisme ou après.
Oui. Ben, c'est un problème qui nous... Oui, c'est un problème. C'est une bonne question, d'ailleurs. J'y ai pensé en étudiant, d'ailleurs. Je ne suis pas le seul. Cette question peut se poser. C'est un problème beaucoup plus vaste, beaucoup plus général, qui porte sur tout ce que diront les historiens ou ne diront pas de la tradition en général. Simplement, je vous donnerai une précision de langage. Il faut faire une différence, dans tous les cas, entre mis par écrit et écrit. Mis par écrit... ça peut être daté, peu importe. Mais écrit, c'est autre chose. Vous comprenez? Oui. Bon. Alors, mis par écrit, ça ne mord pas au sujet. Ça peut être mis par écrit n'importe quand. Après l'apparition du christianisme, la tradition orale elle-même, elle existe antérieurement. Je vous dirai une chose. D'une certaine manière, en poussant les choses un peu à la limite, un peu outrées, Ce que j'ai dit, ça pourrait être dit encore sous une autre forme, c'est que les évangiles, c'est un midrash juif. C'est un midrash juif, mais qui a pris une option politique donnée et qui est devenu ce que j'ai... Donc, mais c'est pourquoi je disais que une collaboration de la conscience juive et de la conscience grecque pour le décryptage des évangiles est nécessaire à cause de la trame d'antisémitisme théologique qui est inévitable à cause de ce que j'ai indiqué tout à l'heure. C'est qu'à partir du moment où la figure du Christ apparaît dans l'histoire, il y a une des deux réalités de trop, le peuple juif ou cette figure. Et ça a beaucoup gêné la conscience chrétienne.
Voilà.
C'est encore notre problème. C'est encore notre problème, nous avons 24 prophètes. Mais enfin, c'est un autre problème.
Okay.
C'est vrai. Mais c'est encore un autre problème. J'ai voulu être, dans mon intention, à la fois, si vous voulez, très, très radical, bien entendu, et en même temps très, très optimiste, disons, consolateur. Et, non, c'est pas mon rôle, mais enfin, vous avez compris ce que j'ai voulu dire. Le fait est que, je crois vraiment, très sincèrement, qu'il y a eu une erreur d'aiguillage au niveau du registre culturel choisi, qui fait que ce dialogue est dans une impasse absolue. Voilà. Et vous avez encore la parole et puis on va arrêter parce qu'il est... Ou alors vous d'abord. Oui. Alors écoutez, je vais vous dire. Non. Je vais vous dire. Parce que vous avez commencé par dire Israël est comparé à la Lune. Non, on n'a jamais dit qu'Israël est comparé à la Lune. J'ai dit le temps d'Israël est comparé au temps de la Lune. C'est-à-dire que le temps de l'histoire d'Israël est compté selon les rythmes lunaires. Donc, la question de la face cachée ne se relie absolument pas là. Maintenant, la durée du temps des 14 générations, bien, ça dépend, c'est l'engendrement de père à fils, par exemple, dans les 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, et ça peut prendre plus de temps ou moins de temps. Il n'en reste pas moins qu'il y a effectivement, suivant la généalogie, 3 fois 14 générations depuis Abraham jusqu'à l'apparition du christianisme, qui d'autre part dans l'histoire juive correspond à des événements historiques bien précis, du commencement de la grande diaspora du deuxième temple, la destruction du deuxième temple, etc. Donc là, ici c'est un tout autre thème, c'est le fait que le temps d'Israël est comparé au temps de la Lune qui se renouvelle perpétuellement, c'est la catégorie du chidouche, alors que le temps des grandes civilisations des nations est comparé au temps du soleil, c'est-à-dire un grand temps d'histoire avec naissance, apogée, déclin, et puis disparition, substitution par une deuxième année, une deuxième civilisation qui vient s'y substituer. Et à travers le déroulement de ces grandes civilisations solaires, enfin je veux dire du point de vue de la grande année, le temps de la Lune se renouvelle perpétuellement. C'est un tout autre terme. Mais là, je voulais simplement signaler qu'effectivement, 14-14, ça va bien dans le sens des règles du Midrash. Mais madame avait demandé la parole.
La descente christique serait-elle de l'ordre du mythe et la descente de la Shrina dans le Kodesh à Kodashim serait-elle de l'ordre de la réalité? Je me mets là bien sûr dans la perspective chrétienne en vous posant cette question.
Parce que là, vous avez entendu la question. Non. La question m'a été posée du point de vue du christianisme. Pourquoi la descente christique, je prends les mêmes termes, la descente christique serait de l'ordre du mythe, alors que la descente de la Shrina serait de l'ordre de la réalité? Tout simplement parce que le Beth Amikdash, Israël comme véhicule de la Shrina, c'est une réalité du monde, alors que la référence au récit de ce en quoi croient les chrétiens, c'est un phénomène de croyance dont le récit généalogique est lui-même mythique. Tout simplement. Voilà la différence. Je crois que c'est ça qui ne peut pas être entendu suffisamment. Il faudra qu'on se parle longtemps. Nous sommes un fait d'histoire et non pas un fait de croyance. Le Christ, pour une conscience chrétienne, est une réalité de foi. C'est la foi qui en fait une réalité historique. Ce n'est pas la foi qui fait d'Israël une réalité historique. C'est une catégorie radicalement différente. Et je crois que c'est ça la découverte à laquelle énormément de consciences chrétiennes individuelles, de bonne foi, sont occupées aujourd'hui, et elles sont extraordinairement inquiètes, traumatisées dans les deux sens, parce que subitement on découvre qu'il y a, et d'ailleurs un certain nombre d'encycliques le disent, il y a un caractère positif du judaïsme dans l'histoire bien après le christianisme. Mais de quoi s'agit-il? On n'arrive pas à réaliser. Je voulais un peu culbuter le problème un petit peu aujourd'hui, on n'a aucune idée jusqu'où ça va dans les dimensions profondes. Mais c'est parce que depuis 2000 ans, à partir du moment où la conscience chrétienne a pensé sa foi à la manière des religions mythiques du sauveur, mais là c'est pas n'importe quel sauveur, c'est pas n'importe quel mythe, c'est Israël, et voilà l'indice de gravité du problème, n'est-ce pas? Eh bien est apparue la théologie négative du judaïsme dans l'église chrétienne. Quoi faire du peuple juif? Alors en fin de compte, on en fait les témoins maudit du déicide. De notre temps, l'Église veut abandonner cette théologie négative, mais elle ne sait pas quoi mettre à la place. C'est pourquoi je dis que les Juifs doivent aider les théologiens chrétiens à s'en sortir. Mais ça ne se fait pas au niveau des amitiés judéo-chrétiennes. Ça, c'est des enfantillages à ce niveau-là. Ce qui se fait de sérieux au niveau des amitiés judéo-chrétiennes, c'est la rencontre d'amitié et des personnes entre Juifs et chrétiens. Et je répète, ce qui, à mon sens, est encore le cas actuellement, c'est un phénomène de la cité française ou de la cité américaine. C'est pas du tout un phénomène de la synagogue ou de l'église. Enfin, je pense que j'ai été suffisamment clair. Alors il faut bien séparer cela. C'est ce que je disais. Bon. Eh bien non, écoutez, prenez-le comme vous voulez, moi j'en fais pas partie. Mais je voudrais vous dire ceci. À partir du moment où la communauté juive décide de vivre dans un pays où il y a des chrétiens, je ne pense pas que la France soit un pays chrétien, c'est un autre problème. Mais en France, il y a des chrétiens. Et parmi les Français, les chrétiens ne sont pas n'importe pour les juifs n'importe quel non-juif. Ils sont ceux qui croient dans la Bible à leur manière. Par conséquent, si la communauté juive se trouve dans un pays où il y a des chrétiens, inévitablement, il faut qu'il y ait des rapports de convivialité. Mais ne pas confondre des rapports de convivialité qui sont légitimes avec une espèce de syncrétisme impur d'une idée judéo-chrétienne qui est une histoire de fou, enfin, sans problème. Bon, alors, ceci dit, est-ce qu'on peut être présent de corps et non pas d'âme dans cette convivialité? Je pense qu'il faudra dépasser. Mais c'est un problème de spécialiste. Ce que je voulais indiquer à ce niveau-là, c'est que les Juifs peuvent restituer le goût de la lecture midrashique dans la lecture que les chrétiens font des évangiles, jusqu'à ce que la lecture mythique soit évacuée. À ce moment-là, on commencera à se parler en clair. Mais tant que ces deux registres se mélangent, je voudrais être très clair et très radical, mais en même temps très amical, si vous voulez, eh bien, il y a malentendu. Voilà. Monsieur, s'il vous plaît, et puis on va arrêter parce que nous avons à 5 heures l'autre séance, oui. Écoutez, J'aurais aimé qu'un théologien chrétien soit là et donne son avis. Mais enfin, ça viendrait un jour peut-être. Mais je vais vous dire pourquoi. Parce que pour la théologie chrétienne, dans son orthodoxie propre, je ne parle pas de l'Église orthodoxe, mais de l'orthodoxie chrétienne en général, le caractère canonisé des évangiles n'est pas du tout au même niveau que le caractère prophétique des livres de ce qu'ils appellent l'Ancien Testament. Ce n'est pas la même chose. Et même pour un théologien chrétien. Mais ce que je voulais ajouter, c'est ceci. Dans la Bible hébraïque, Dieu parle au prophète. Dans le récit des évangiles, ce n'est pas Dieu qui parle. C'est le mythe qui parle. C'est le Christ qui parle. Ce n'est pas Dieu qui parle. Et qui dit « Je suis ». Vous comprenez le problème. Et alors là, nous aurons à nous expliquer sur tous ces problèmes si un jour ce dialogue s'ouvre. Mais je crois qu'il y a des préalables politiques, historiques, qui empêchent l'Église, toutes les Églises, d'accepter le dialogue à ce niveau. C'est pourquoi je dis qu'il faut les distinguer radicalement, sans aucune ashlaya, sans aucune illusion, par rapport aux chrétiens d'Israël. Sans aucune allusion, parce que vous connaissez le... Non. Nous avons un verset qui dit « Kimition tetsetora »« Eulise kimission tetsetora » La mission, ok, bon. Oui, vous avez la parole et puis on va arrêter. Mais c'est ce que nous appelons le paganisme. Et les juifs peuvent être candidats au paganisme. Et je pense que tu serais d'accord avec moi en disant que quand ils tombent dans une idéologie, c'est en plein. Hein? Tout à fait d'accord.
La confiance
juive se réalise après le choix par rapport à... Oui, mais à l'échelle collective, à l'échelle d'entité, elle est candidate au choix authentique. C'est Dieu qui nous l'a dit. Et l'histoire le confirme. Et puis on arrête là, parce que je suis désolé, Hadash.
Okay. Pourquoi le mythe chrétien est-il né spécifiquement au sein de la culture grecque? Est-ce que ce n'est pas une raison historique pour dire qu'elle a pu naître parce qu'il y avait une fin de la prophétie?
Il faudrait encore accentuer la question. Pourquoi, après la fin de la prophétie, c'est quand même la culture grecque qui a donné naissance à ce mythe? C'est probablement parce que l'angoisse...